C'est ça aussi qui est passionnant, c'est que quand t'as une caméra car, moi je l'ai déjà adapté sur une motoneige qui était à 70 km/h à peu près, qui filmait un gros plan au 100 mm d'une spatule de ski sur une piste de ski. Donc t'imagines le truc qui tremblait comme jamais.
Comment tu fais pour stabiliser ça?
Eh ben, Black Arm, tu vois, le bras, le gros bras stabilisé que vous avez vu, avec le Ronin 2 en dessous, une RED, une optique ingénieux zoom, Medbox, tout, un pilote de motoneige, un opérateur derrière, et puis les gros TeraDeck 3000 avec des antennes relais sur la piste de ski.
Salut et bienvenue sur le podcast au générique. Dans chaque épisode, je reçois les hommes et les femmes qui font l'audiovisuel d'aujourd'hui et de demain pour nous raconter leur métier, leur parcours et leur anecdote. Je suis Jonathan de l'équipe Lightisher.com, la plateforme qui vous permet de louer tout le matériel nécessaire à vos tournages ou à rentabiliser vos équipements. Aujourd'hui, je reçois Thomas Lhermitte, spécialisé en caméra car et en film publicitaire automobile. Je vous souhaite une bonne écoute.
Putain, moteur!
Salut Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis super content de t'avoir sur le podcast avec nous. Tu es filmmaker depuis plus de 10 ans et après avoir travaillé dans la musique et la publicité web, tu as monté TL Films, une société de production de films spécialisée dans la pub automobile, enfin même dans le film automobile, je pense on peut dire.
Ouais.
Ouais. Basé à Annecy, mais aussi de la disposition de vos propres caméras car. Ça, c'est tout un sujet.
Et ouais, on va en parler.
Et tu travailles aujourd'hui avec des clients comme Alpine, Renault, Audi, BMW, Red Bull et j'en passe. Hein, il y en a pléthore déjà. Et tes productions comptabilisent des millions de vues. Passionné de vidéo et d'automobile, et tu as réussi à allier tes deux passions pour en faire ton métier aujourd'hui. On va y revenir en détail juste après, mais avant de commencer, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est rapidement une caméra car?
Ah, alors je m'attendais pas à cette question. C'est vicieux là. Ok, alors une caméra car, c'est une voiture qui est transformée pour la prise de vue. Ça peut, tout de suite dans votre tête, vous avez peut-être l'image des fameuses grues avec les voitures toutes noires que vous voyez sur les grosses productions. Mais attention, ça peut aussi être tout simplement un Osmo sur une ventouse à l'arrière, se considérer comme une caméra à car, tu vois.
Okay.
Ça dépend en fait l'utilisation que t'as, si c'est un événement ou si c'est plus un long métrage. Et après, t'as le milieu de gamme qui est la publicité digitale, c'est là où moi je me situe. On est sur des caméras à car, relativement abordable en termes de prix, on va en parler après. Mais voilà, en tout cas, pour moi, la définition d'une caméra car, c'est une voiture modifiée pour la prise de vue.
Est-ce que tu peux nous faire on va faire un petit retour en arrière et nous expliquer comment t'es venu cette passion de l'audiovisuel, par quoi t'as commencé?
Bah écoute, là, à l'heure actuelle, j'ai 31 ans et du coup, ça a commencé quand j'avais genre 15 ans en skate. Tu disais, tu vois, mes deux passions, l'automobile, l'audiovisuel, et on peut rajouter une troisième, le skate.
Ok.
Tu vois, tous les tatouages, ça vient du skate. Mais ouais, du coup, 15 ans, tu vois, je filme mes potes en skate et puis bah moi, ça me plaît à fond, quoi, tu vois. J'organise des soirées dans ma ville, je suis originaire du nord de la France, il se passait pas grand chose, j'organise des soirées qui marchent super bien puisqu'il se passait pas grand chose en fait, et on book des artistes de Headbanger, Mid à l'époque, tu vois, qui étaient pas encore aussi connus qu'à l'heure actuelle, mais tu vois, tu imagines comment ça ouvre ton carnet d'adresses. Donc ça c'est assez cool, et du coup ça m'a vite mis le pied à l'étrier à faire de la vidéo événementielle dans la musique. Et ensuite, ça m'a développé tout un réseau dans la musique pour faire des clips.
Ok.
Et du coup, voilà comment ça a démarré au début à mes 18 ans.
En fait, ta première caméra car, c'était sur un skate. T'étais déjà en train de trouver un moyen de te déplacer avec une caméra.
J'ai toujours aimé les mouvements de caméra. C'est toujours ce qui m'a plu comparé à la photo où je trouve ça statique. Alors, j'apprécie les belles photos, mais c'est ce qui me plaît dans la vidéo. C'est vraiment un point A, un point B. Tu vois, j'aurais pu être pilote de drone, en fait, parce que je kiffe trop le fait que quand tu racontes une histoire autour d'un plan. Donc, j'ai toujours été passionné un peu des steadicam et des mouvements complexes.
Qu'il y a du mouvement. Ok. Ouais. Et alors, quand t'étais étudiant, si je dis pas de bêtises, tu as réalisé un court-métrage de comédie qui s'appelle La menace d'une rose, qui reprend la vie secrète de James Bond. C'est un fan-film de James Bond.
Ouais, voilà, en fait, c'est un fan-film de James Bond. Ouais, bah alors, ça, c'est un problème que peut-être beaucoup d'auditeurs ont, c'est que quand tu te lances dans un projet, tu veux le faire grossir, et après, tu n'arrives plus à arrêter de le faire grossir, tu vois. À
la base, c'est un bon problème,
être...
ça.
Ouais, c'est sûr, mais ce film-là, par exemple, il a pris 3 ans, alors qu'à la base, il devait être plié en 6 mois, tu vois, le truc. Et du coup, en fait, tu bookes un acteur, et puis il t'en amène un autre, et puis du coup, comme j'ai réussi à avoir Catherine Allégré ou Rufus, ou des gens un petit peu connus, du coup, ça amène d'autres personnes. Et puis, tu vois, il faut l'univers de James Bond. C'est un fan film sur James Bond. Donc, il faut tous les codes de James Bond. Donc,
bien sûr.
J'imagine bien le luxe, les belles voitures, les palaces, les choses comme ça. Donc, j'ai été toqué à la porte de plein d'hôtels, comme le Lutetia à Paris, qui nous ont prêté une chambre. Puis comme le Lutetia nous a prêté une chambre, il fallait un super hall. Et tu vois, ça a été vraiment effet boule de neige à chaque fois. Donc, on retardait le tournage, on repoussait tout le temps le tournage, mais pour le bien du tournage. Et pareil, pour les voitures, tu vois, c'est des concessions qu'ils nous ont prêtées, Aston Martin, Lamborghini, des trucs comme ça. Et puis, jusque la musique symphonique, tu vois, c'est un orchestre symphonique qui a fait la BO du film avec Guillermo Resta. Donc, vraiment, c'est un truc qui n'a pas arrêté de grossir. Il y a une centaine de personnes qui ont participé. Donc, à la base, le petit court-métrage, il s'est transformé en un peu la carte de visite de ma vie, quoi, tu vois.
Au fond, monsieur Bond, nous sommes les mêmes, vous et moi. Nous avons vécu orphelins et nous nous cachons derrière une personnalité brutale.
Je me cache derrière un mur, Vandol.
Cache-cache en enfer.
Bah, allez le voir, il est disponible sur YouTube, si je dis pas de bêtises.
Ouais, YouTube vidéo. Bon, il a une dizaine d'années, donc soyez indulgents.
Voilà, faut le voir avec cette prise de conscience. Quelques années plus tard, du coup, t'as créé Tell Films. Et il me semble qu'au début, c'était pas forcément une boîte de prod orientée 100% automobile.
Ouais, voilà, c'était 2016, 2017, 2018, où en fait, j'étais vidéaste polyvalent, donc autant du sport que du lifestyle, toujours dans la publicité quand même. Ça restait mon créneau, même si au début je parlais de musique, mais j'ai vite basculé vers la pub parce que j'avais plus d'affinité là-dessus. Donc ça pouvait être du studio, et puis le lendemain en montagne à faire une pub de chaussures ou de vélo. Le surlendemain, j'étais trois fois en Chine, cinq fois aux États-Unis pour des projets, donc tu vois, des trucs pour Mavic ou des grosses marques, pour des agences ou moi en direct, parfois ça dépend. Donc ça, voilà, j'ai fait toute mon expérience là-dessus.
Okay.
Sur plusieurs années.
Toute ton expérience en fait de réal, chef op, touche à tout, filmmakers.
Voilà,
en fait,
exactement.
On peut dire, je pense.
Puis il arrive un moment dans la vie où tu tournes un petit peu en rond. Donc là, je suis approché un petit peu de la trentaine. Donc j'ai déjà peut-être bientôt 10 ans d'expérience. Ça peut paraître un peu choquant, mais vu que j'ai commencé très tôt, tu vois, tu prends vite de la maturité. Et du coup, je me disais, je veux pas faire ça toute ma vie, de faire un peu tout n'importe quoi. Parce que j'aurais bien aimé me spécialiser. Et puis, j'étais le vidas de l'influenceur Pog, on a fait des Gumball 3000, on a fait de plus en plus d'automobiles.
Gumball 3000, pour expliquer, c'est un rallye avec des supercars, c'est
ça? Exactement, ouais. J'ai eu la chance de participer en 2018, du coup, au plus gros Gumball qui a été les 20 ans, donc de Londres, c'est la partie en Asie, via l'Italie. Donc ça, c'était super intéressant. D'ailleurs, on a même créé une caméra car avec un Osmo sur ventouse sur un RS6. Tu vois, là,
spécialement.
Je commence à parler un peu technique et tout, mais on va y aller après. C'est le but aussi
bien
de ce podcast. Mais du coup, pour juste résumer un petit peu le truc, j'avais de plus en plus en fait de contacts. Sarah Lesito aussi, qui est une influenceuse qui a plusieurs millions d'abonnés cumulés sur ses réseaux sociaux, de Stunt Moto. On a commencé à travailler ensemble, tu vois. Puis moi, ce domaine-là, je kiffe de ouf, quoi, tu vois, la voiture, conduire des Lambos, des Ferrari. Du coup, je me suis dit, ok, ça me plaît, je vais me spécialiser là-dedans. Juste avant le podcast, on parlait des filmmakers dans le coffre, tu vois, dont tu veux, c'est même parti un petit peu dans ta jeunesse, on a tous fait ça, tu vois. Donc, moi, j'ai fait beaucoup ça aussi. Et pour les filmer du vélo ou de la voiture, je trouvais ça vraiment hyper dangereux.
Oui, c'est pas recommandé, ne faites pas ça chez vous.
Tout le monde dit ne faites pas ça, et puis au final,
on le fait tous, mais
faites-le, mais le plus sécu possible, s'il vous plaît, tu vois. On voit tellement de vidéos d'accidents et tout, enfin bref. Et du coup, là, ça remonte à genre il y a 5-6 ans, donc c'était pas autant développé qu'à l'heure actuelle avec tous les tilt hydra et tout, tu vois, qu'on voit et tout ce que DJI sort. Mais du coup, je me suis dit, tiens, ce serait cool de faire ma propre caméra car. On budget, et puis après, au fur et à mesure, tu investis de plus en plus. Et jusqu'à en 2018, j'ai pris complètement la décision du coup de créer une société et de faire que de l'automobile. Mais vraiment, alors ça c'était hyper dur, mais c'était je fais que ça. Je refuse les autres projets. Et pourtant, on me proposait en tant que réalisateur des trucs à 10, plus de 10 000, tu vois. Une pub pour une chaîne d'hôtel, une pub pour des chaussures de sport, Decathlon, des choses comme ça. Pour faire que de l'automobile. Donc, au début, c'est. En fait, quand tu te spécialises en cours de carrière, c'est un peu comme si tu recommençais, quoi. Puisque t'as certains projets qui tournent, mais vu que tu en refuses pour aller que dans ce qui te plaît, après, tu peux accepter des projets un peu alimentaires. Mais que tu vas pas publier, que tu vas pas mettre en avant. Mais...
Que tu mets sous un autre nom, LT Films.
Ouais, tu imagines le truc. Non, mais voilà, ça, enfin, tu vas le faire à fond, et le film va être très bien, donc le client va être super heureux. Mais tu vas pas forcément communiquer là-dessus.
Ouais. Ouais, l'idée là, c'est vraiment d'aller se spécialiser sur ton domaine. Si qu'on va dire de comment on fait pour filmer une voiture qui va à 250 km/h sur un circuit ou ailleurs, sans se mettre dans le coffre avec une corde attachée autour de la taille. Comment tu t'es formé là-dessus? Je sais pas, t'as eu quelqu'un qui t'a éduqué là-dessus, t'as cherché, c'est...
Bah en fait, comme sur La menace d'une rose, donc on revient quelques années en arrière, avant de faire ce court-métrage, je t'ai dit que j'en avais déjà fait quelques-uns avant, et surtout j'avais testé les postes. C'est que je suis un peu boulimique de travail à force, malheureusement pour ma copine, mais voilà, pour ma femme même. C'est que je travaille vraiment... beaucoup. Et du coup, j'aime bien tester les postes avant de pouvoir prétendre de diriger quelqu'un. Je trouve, il faut quand même avoir fait son travail. Du coup, j'ai participé à des courts-métrages bénévoles. J'en ai fait vraiment plein en tant que sondier, assistant son, assistant déco, vraiment faire des feuilles de décor avec une perceuse et tout, vraiment des trucs comme ça. Et aussi de la machinerie, en fait. Donc, j'étais formé un petit peu par Renaud Merviel, un chef machinot. Et puis, au fur et à mesure, des petits courts-métrages à droite à gauche. Ou des projets en tant que renfort, hein, tu sais, où on t'appelle la veille parce que le mec il est malade et du coup il faut le remplacer. Moi je disais ouais vas-y ok je suis là et du coup ça m'a formé un peu là-dessus sur le côté machinot. Donc j'ai appris à mettre des sangles, j'ai appris à tu vois à protéger le matériel, comment rigger une voiture et plus ces histoires d'influenceurs avec Sarah, Pog, etc. En fait tout cumulé, tu vois ça m'a permis de vraiment de connaître comment rigger des voitures. Donc, je me suis pas formé. Il y a pas d'école pour ça ou d'entité en tout cas pour former des machinos
sur ce sujet spécifiquement. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet de ces caméras à car, parce que le sujet est quand même assez passionnant. Ouais. Tu l'as dit toi-même, donc c'est vraiment à différencier des voitures qu'on peut voir sur les gros tournages, les gros SUV avec des grues montées dessus.
Ouais, ça c'est l'ultime caméra à car.
Qui pèse je ne sais combien et qui demande des autorisations très complexes à avoir, etc. Toi, tu es sur un modèle qui va être plus léger.
Ouais.
Tu peux nous expliquer un peu globalement à quoi ça ressemble?
Bah, du coup, mes caméras car, elles ont évolué au fur et à mesure des années. Donc, la première, elle date de 2017-2018. C'était une BMW série 1 de base, vraiment la voiture d'occasion, pas trop chère. Et du coup, j'ai mis une cage de stabilisation de mouvement, donc de stabilisation de gimbal, en fait, des cages, comment vous dire ça? Si vous voyez pas tout de suite, parce qu'en fait, là,
les petites suspensions de chaque côté.
Ouais, voilà, c'est des ressorts, c'est des sortes de ressorts, en fait, qui permettent de compenser les tremblements.
D'accord.
Pour parler vraiment très simplement. Ça ressemble à une petite plateforme à deux étages qui fait 50 cm de large. Et là-dessus, tu clipses un Ronin. À l'époque, c'était un Ronin 1, tu vois, le premier Ronin.
Okay.
Et puis, bah, tu mets ça sur le capot de ta voiture, soit via des ventouses ou via des aimants, par exemple Rig Wheels. Et puis, tu mets ça du coup sur ton capot, sur ton toit ou alors dans ton coffre de voiture.
Okay.
Ça, c'était la première vraie caméra car où on peut commencer à mettre une petite RED avec une optique Canon. Ou un boîtier plus.
Ça, c'est comme ça que t'as commencé, toi, l'activité, en tout cas.
Ouais, voilà, c'est comme ça. La vraie activité, je vous zappe les ventouses avec juste un Osmo, parce que ça, c'est vraiment la camcar de step zéro, quoi. Tu vois, c'est comme si... Non, mais c'est vrai. C'est comme si tu achètes une GoPro, tu achètes la ventouse GoPro, tu la mets sur ta voiture, tu as une caméra car, tu vois. Mais vraiment, c'est pour 500 euros. Donc ça, c'est la step 1. Ensuite, le step de dessus, c'est trafiquer des osmos ou des drones aussi, reprendre les gimbals des drones. Parce que le but d'une caméra car aussi, c'est de pouvoir la contrôler. C'est pas uniquement de riguer un boîtier fixe sur ta voiture. tu peux hein, faire des plans avec ça et tu te sers de la voiture pour diriger ta caméra. Sauf qu'au bout d'un moment, t'es restreint par la route. Tu vois, la route qui va tout droit, une deux voies, tu vas pas pouvoir aller dans le décor pour faire une sortie de champ.
Vaut mieux éviter, ouais.
Ouais. Donc, voilà, tu vois, ça évolue au fur et à mesure. Et donc, je passe l'étape donc, de cette cage, ce step 1, Rodin 1 cage. Ensuite, un bras articulé. Donc, j'ai acheté un Flociné Black Arm, qui est la référence des bras, le quatrième axe fameux. Donc, en plus des trois axes du gimbal, ben, tu vas mettre un quatrième axe qui va compenser en fait, plusieurs facteurs, les vibrations, l'axe de roulis, le roll aussi qui va aider, voilà, qui va aider beaucoup le gimbal à se stabiliser. Et du coup, ça, tu dois obligatoirement le mettre sur une structure tubulaire de tube autour de ton véhicule. Donc, ça peut être un vélo, ça peut être une voiture. Moi, entre autres, c'était une voiture. Donc, grâce à mes expériences avec les différents machinaux, que j'avais déjà appris un peu la physique et comment riguer une voiture. En fait, c'est beaucoup.
Parce qu'il y a une question d'équilibre aussi, j'imagine. Ouais. Tu peux pas te retrouver avec une RAID, avec tout l'équipement qui va autour, avec le Ronin, etc., à bout de bras, sur un tube, alors que.
Ouais, exactement. Faut vraiment penser au poids. Il y a plusieurs types de ressorts selon le poids de ton setup. Donc, c'est des choses quand même assez techniques. Mais si en se formant et puis en se documentant à fond et en pratiquant avec des pros, voilà, tu apprends ça au fur et à mesure. Je touche du bois, j'ai jamais cassé de matériel. Si tu vois tellement de vidéos de bras qui pètent et tout sur Internet, tu vois.
C'est ce que j'allais te demander. Pour l'instant, t'as jamais eu de caméra qui chute, le bras qui pète dans un virage un peu trop énervé.
Non, pas en caméra car, tu vois.
Non.
Non.
Pas en caméra car, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a eu de la casse dans d'autres situations.
Bah, comme tout le monde, après, c'est vrai que tu prends des risques, donc tu es assuré pour. Je conseille vivement de s'assurer pour l'utilisation, mais ouais, c'était pas à l'abri d'un crash comme un drone, tu vois. Ça reste
bien sûr,
une
ouais.
technologie quand même qui est relativement fiable selon les situations, quoi.
Et selon le pilote,
ouais, selon le pilote, beaucoup selon les décisions que tu prends.
On peut voir sur ta chaîne YouTube la transformation de la BMW série 3 Touring G21.
Ouais, voilà, c'est le dernier.
La
modèle.
Toute dernière.
Ouais, voilà, ouais. Là, je me suis fait plaisir.
Ouais, la voiture est magnifique. Merci. T'as fait toute une. Tu l'as complètement refaite.
T'as
fait un covering,
dessus.
Voilà.
C'est un énorme sticker imprimé.
Qui est assez magnifique. J'invite tout le monde à aller jeter un œil sur le compte YouTube ou Instagram TL Films pour aller y jeter un œil. C'est assez impressionnant de voir ce véhicule. Comment on en vient là? Parce que ça commence à être une grosse voiture là aussi, là, en termes de budget. Tu pars de la petite voiture d'occasion dont tu parlais tout à l'heure avec un rig assez simple.
Ouais.
Où là, on peut voir que ton rig, il a quand même bien évolué, que la voiture, elle a bien évolué aussi.
Ouais.
C'est quoi le chemin entre les deux?
Bah, faut charbonner. Hein. Non, mais il n'y a pas de secret.
Ouais, il n'y a pas de secret, ouais.
Ouais, franchement, moi, j'ai une famille modeste. Mes parents ne connaissent rien du tout à l'audiovisuel. Même encore, il y a quelques années, ils me disent... Ah, il y a quelqu'un qui se marie et tout bientôt, tu veux pas venir filmer et tout. Bon, j'ai rien du tout contre ça, mais c'est pour vous dire, vraiment, ils savent pas ce que tu veux, ou venir prendre des photos, tu vois. C'est vraiment, on a vu France 3, on a pensé à toi. C'est super gentil et tout. Voilà, pour vous dire un peu, là, moi, j'ai jamais été aidé financièrement de ce point de vue-là. J'ai juste charbonné comme un porc, quoi. Vraiment, c'est le seul.
Parce que là, en termes de coûts, on parle de combien pour un setup de ce type-là?
Ouais, 100 000 euros, en gros, voiture incluse. Donc, tu répartis à peu près moite-moite.
Ouais, ça commence à être un budget.
Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est parce que tu vois, j'ai pris un Ronin 2, un Red Komodo, des optiques zoom, ciné, cranté.
Ok, c'était une de mes questions, c'est que tu t'as donc justement, t'es équipé aussi caméra.
Ouais.
On en parlait un petit peu en off, c'est que tu me disais que tu fais, du coup, on a pu voir dans ton passé, etc. Toi, t'es à la base réal.
Ouais.
Donc, t'as vraiment ce côté-là réalisateur. Donc, t'es équipé de caméra et tu viens pas juste avec une voiture équipée et le chef-op plug la caméra de son choix et t'as un réal qui monte dans la voiture et ils font leur truc.
À l'heure actuelle, justement, ce qui est intéressant, c'est que je suis évolué un petit peu le business comme il vient, comme on me demande, tu vois, selon les, les besoins aussi de la clientèle. C'est que j'ai deux services bien distincts. C'est soit je réalise, je produis le film ou je réalise uniquement, en tout cas.
Okay.
Du coup, là, je viens avec mon équipe et plutôt mes caméras que je loue ou les miennes. Soit j'arrive uniquement en tant que prestataire technique, donc uniquement avec la caméra car. Et là, il n'y a aucun problème, on discute super souvent. En plus, c'est une option qui arrive assez souvent avec le réal du film, avec le chef-op du film. Et moi, j'arrive vraiment en mode loueur. Si vous voulez un petit avis, un conseil, un truc, bah, je suis là. Si vous voulez pas, bah, tu vois, je ferme ma gueule et je conduis et je fais juste mon truc de machinot et ça me va très bien. Okay. Franchement, sans déconner. Avec le recul, faut arrêter d'essayer de toujours se placer.
Ouais, enfin, tu vois, t'es plus détente sur le tournage, moins de pression.
T'es pas là en train de déballer ton CV au gars, il en a rien à foutre. Et du coup, si t'as appelé uniquement pour être technicien, t'es technicien. S'il veut un petit conseil, un regard extérieur et tout, bah, ok, vas-y, tu vas participer. Mais de toute façon, c'est pas pourquoi t'es payé, c'est pas pourquoi t'es là. Donc, bon, ça, voilà, faut aussi savoir se remettre aussi à sa place. Et c'est pas du tout mal, hein, ce que je dis. Donc voilà, il y a ça. Soit le côté vraiment purement technique. Bah là, mes clients, tu vois, c'est Gaumont, par exemple, ou des grosses productions comme ça, où vraiment j'arrive en équipe B, caméra B, des Harry, des trucs comme ça. Il y a déjà le chef-op équipe B qui est là, qui m'accueille, et on va faire des rolling caméra-car sur route, et pendant que les gros acteurs, ils shootent autre chose avec des doublures et des trucs comme ça, tu vois. Okay. Je participe à ça. Et, ou sinon, voilà, la publicité, par exemple, pour Alpine, qui m'a commandé une série de teasers sur Insta, où bah là, je réalise et je viens avec mes caméras, mon équipe. Là, c'est un autre type de projet où là, je mets plus la main dans le côté artistique avec un storyboard ou du moins une note d'intention, un brief. Et là, c'est plus la classe.
C'est quoi l'équipe type qu'il y a dans une caméra car? Il y a combien de personnes pour gérer ce type de machinerie? Comment ça se passe?
Il faut être au minimum deux. Donc, un pilote qui conduit la voiture et un opérateur. Voilà, ça, c'est vraiment le strict minimum.
Quand tu parles d'opérateur, c'est l'opérateur caméra ou c'est l'opérateur pour le Ronin?
L'opérateur tout, là, en gros, c'est tu gères le Ronin ou le gimbal que tu as. Pourquoi pas la mise au point si tu peux te permettre d'avoir un follow focus, sinon tu prends un boîtier Sony ou quelque chose qui fait le focus tout seul, ou on reprenait l'exemple de l'Osmo sur un iPad, tu vois, ça peut être juste ça, mais tu vois bien que quand tu conduis la voiture, tu peux pas en même temps gérer la caméra.
Ça paraît dangereux, ouais.
Très très dur. Donc respect en tout cas, tu peux vite fait, tu vois, avec le doigt un peu sur le téco, mais voilà, c'est pas recommandé du tout. Donc voilà, ça c'est le minimum en termes d'équipe, c'est deux personnes. Mais je vais pas te mentir, à la plupart des tournages, on est quand même trois.
Okay.
Où, du coup, il y a un pilote. En général, c'est moi quand même, 90% du cas. Je t'expliquerai pourquoi si ça t'intéresse.
Complètement, ouais.
Un opérateur gimbal qui gère uniquement les mouvements de la nacelle.
D'accord.
Et puis, à l'arrière, un focus puller, un pointeur qui gère le focus, le zoom, voire l'exposition si t'es sur un Harry WSU4 ou une commande de style Nucleus ou quelque chose comme ça.
Et derrière, t'as le réal qui est dans la voiture.
Voilà, en plus, t'as une à deux places supplémentaires. En général, la script au milieu et puis sur le siège restant, soit le chef-op si c'est pas lui qui gère la nacelle ou un réal ou quelqu'un d'équipe ou un client, tu vois, qui veut venir. Du coup, on a quatre moniteurs.
Ouais, ça, ce que j'ai demandé, t'as des moniteurs à chef à l'arrière de la voiture et à l'avant pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe.
Alors du coup, ils sont pas à chef parce qu'en fait, la voiture, c'est une cage de Faraday, donc ça rebondit.
Ça paraît être complètement logique maintenant que tu le dis.
Ouais, ouais. Jonathan fait oui de la tête. Oui. Du coup,
ça paraît complètement logique.
En fait, pour expliquer en quelques mots, une voiture, c'est un peu une boîte métallique qui permet de ne pas faire passer les ondes à travers. Les ondes à chef passent vraiment mal, que ce soit le Wi-Fi pour gérer la Komodo ou une transmission à chef type Holyland, Teradek, Vaxis. J'ai vraiment testé plein de modèles.
Ça ne marchait pas.
Et à part les Vaxis, à part les Holyland, comment ça s'appelle, Cosmo, elle est plus chère. Ou les Teradek, pas les Teradek, même les 500, ça marche pas. Enfin, c'est vraiment les 3000. Tu
vois. Ouais, c'est risqué de se mettre dans une situation un peu compliquée où ça marche une fois sur deux, alors qu'un bon câble à l'ancienne.
Surtout là, sur le Ronin 2 ou les Movi XL, tu vois, tu peux passer un câble SDI à l'intérieur du gimbal. Du coup, ça te permet d'avoir un gimbal complètement libre. Et aussi, c'est intéressant pour protéger des cailloux et des éventuelles fumées ou petites pluies ou des choses comme ça. Donc, en fait, ta nacelle, elle peut faire des 360. Du coup, tu passes ton signal de la caméra à l'intérieur du gimbal et il ressort en haut du gimbal. Ça, tu as juste un petit câble à mettre.
Okay.
Et du coup, tu me parlais de la nouvelle voiture. Il y a plein de checks que j'ai fait attention sur cette nouvelle voiture, notamment avoir un toit ouvrant. pour pouvoir faire passer les câbles.
Bah, c'est la question que j'allais te poser, c'est une question un peu bête, mais je me demandais, bah, du coup, comment tu fais pour faire passer tous ces câbles? Tu perces la voiture, mais j'imagine que c'est
peu.
C'est pas forcément super recommandé, quoi.
À partir du moment où tu la perces, bah, tu sais qu'il faudra faire une étanchéité, ça va coûter une blinde, elle perd, elle a une décote de ouf le jour
où
tu la revends.
Oui, c'est pas terrible de faire un trou dans une voiture.
Ouais,
de manière générale.
À part si vraiment, tu vois, t'es chaud et tu veux faire une vraie caméra car type motocrane avec une grue, etc. Mais là, t'es peut-être en train de rigoler sur ce qu'on parle, et, tu vois, maintenant, parce que du coup, t'es tellement performant. Mais sinon, ouais, c'est trop extrême, tu vois. Moi, je veux rester quand même dans des économies et dans des logiques qui restent milieu de gamme. Tu vois, j'aime bien me placer sur ce type de projet pub digital.
Mais c'est super intéressant parce que justement, c'est un peu ce que tu disais. Tu peux démarrer avec un Osmo et un iPad sur n'importe quelle voiture, sur ta Toyota Yaris ou je ne sais quoi, sans souci. Et tu peux aller très très haut avec ces caméras, ces voitures grues qui coûtent je ne sais combien et qui sont vraiment sur des grosses prods, on va dire. Et t'as l'entre-deux qui fonctionne aussi sur des grosses prods, mais qui va être beaucoup plus économique. Et toi, t'as réussi à lancer ça assez rapidement. Et il me semble que vous êtes pas beaucoup en plus en France à faire ça.
Non, c'est vrai.
C'est assez rare. C'est soit en fait tu te débrouilles tout seul avec ton Osmo, soit t'as 50 000 balles de budget. Et
voilà. Après, c'est un marché de niche, un peu de spécialistes. Donc c'est aussi normal qu'on soit peu. Après, maintenant, ça se développe énormément avec notamment Tilta là, cette année, l'année dernière, qui a bousculé tout le marché en sortant un Tilta Hydra à 1000 balles. Et même là, tu vois, on discutait juste avant du podcast de la grue Tilta. Je comprends pas trop comment ils veulent se placer là, parce qu'ils ont sorti une grue, mais qui accueille que des petits gimbals type RS3. Donc, du coup, tu mets une grue au-dessus de ta voiture. Donc, tu pars d'office avec trois opérateurs, un pilote, un opérateur gimbal, un opérateur grue, vraiment au strict minimum. Donc, et en plus de ça, route fermée, puisque.
Est-ce que t'as pas le droit de rouler sur une route normale avec une grue qui se déplace au-dessus?
De fou, mais alors là, tu laisses tomber. Et du coup, tu peux que mettre un petit RS3 avec une petite caméra, tu vois.
Okay.
Là, je comprends pas du tout le positionnement du truc. Mais bon, bref, ça, c'était la parenthèse technique. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de constructeurs, Movmax, qui sortent des petits bras articulés pour des petites nacelles. Donc, je vois plein de caméras car poussées à droite, à gauche.
Ok, la concurrence arrive.
Bah, franchement, ouais, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, c'est cool, quoi. Tu vois, ça pousse le marché vers le haut.
Bien sûr.
Donc, c'est intéressant.
Aujourd'hui, toi, avec la config que t'as, tu peux rouler sur route ouverte sans souci, en dehors du fait de vouloir peut-être faire des zigzags derrière la voiture pour faire tes plans. Si tu veux juste rouler derrière une voiture tranquillement, tu peux le faire sans avoir besoin d'autorisation particulière.
Voilà. Alors, bah, du coup, là-dessus, moi, je me suis beaucoup formé pour pas dire de la merde. D'ailleurs, si tout ce que je dis, ne prenez pas à la lettre, hein, ça peut
consulter un avocat.
Avec, voilà. Non, mais c'est vrai, je fais un petit disclaimer, mais il faut toujours le faire. C'est que les lois évoluent au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de la localisation. Donc, dans chaque pays, c'est différent. En Suisse, en France, ça va pas être pareil. Donc, c'est pour ça que je mets des pincettes avec ce que je dis.
Ah, t'as bien raison.
Oui, mon setup est roi de légal, uniquement à l'arrière, qui est considéré comme un chargement, parce qu'il dépasse pas de la voiture, parce qu'il dépasse qu'à 1 mètre du coffre. Donc, t'es considéré comme si tu
sortais
du magasin de bricolage avec
ta remorque, ou tes vélos accrochés à l'arrière de la voiture.
Ouais, et même encore mieux parce qu'on voit la plaque. Donc, c'est aussi pour ça que moi, mon setup, j'ai voulu avoir le tube sur les côtés et pas au milieu pour rester avec une plaque à l'arrière bien visible. Et je me mets du coup sur un anneau plus sur les barres de toit. Donc, tu vois, tout ça, ça a vraiment été vraiment réfléchi pour que le système il soit roi de légal en France. Et dans les autres pays, comme on a shooté, tu vois, à New York, c'était encore différent. Donc, l'aspect légal, il évolue vraiment dans le temps et sur la localisation.
Okay.
Mais en tout cas, pour répondre, je peux quand même répondre à ta question. On s'était appelé les rois de légal. Je me suis déjà fait arrêter par la gendarmerie. J'ai même démarché ce matin.
La gendarmerie?
La gendarmerie. Mais
c'est pas mal ça pour éviter les amendes sur les prochains tournages ou autre. Ça peut être tactique.
Mais en tout cas, ouais, voilà, faut vraiment le faire en bonne intelligence. Tu vois, j'ai les petits dispositifs rétro-réfléchissants. J'ai vraiment poussé le vis assez loin en cas d'arrêt. Tu vois, c'est un peu comme un pilote de drone. Si t'as pas ta RC Pro à 1 million, tu te fais arrêter. T'es un peu en stress, tu vois.
Bien sûr.
Bah là, moi, je sais que je peux me faire arrêter. J'ai mes petits documents. Toujours sur moi en tournage, les factures d'achat, les assurances, ma RC, je suis assuré pour l'utilisation de cette voiture sur circuit ou sur route ouverte, je suis considéré comme chargement, et bien sûr il faut respecter le code de la route la bonne utilisation de la voie publique.
Évidemment.
Quand tu filmes.
Ou alors faut bloquer la route, quoi. Mais
ou alors
ça,
faut
c'est
bloquer la route,
évidemment dans
coup,
le cas où tu roules sur route ouverte.
Ouais.
En effet, là, il va falloir respecter un peu les règles.
Ouais, il y a trois types, en fait, niveau législation, pour fermer un petit peu la parenthèse là-dessus. Ou, enfin, moi, tu veux encore en parler, moi, quand tu me lances le truc, moi, je peux en parler, faire tout le podcast.
Non, mais c'est important parce que tu vois, si quelqu'un a envie de se lancer un peu là-dedans derrière, je trouve ça cool d'avoir déjà deux, trois petits tips sur le sujet.
Mais du coup, en fait, je distingue trois grandes parties. C'est la road légale, donc enfin le route ouverte, en gros. Donc là, tu dois respecter le code de la route, l'usage de la route, tout. Donc tu peux que filmer à l'arrière, en fait, ou voir sur le côté si tu as une double ou une triple voie. Tu n'as pas le droit de bloquer ou de ralentir la circulation ou faire un bouchon. Tu sais que même sur l'autoroute, tu n'as pas le droit de ralentir ou de t'arrêter. Hein. Tu as des limites aussi minimales et pas que maximales. Donc ça, c'est la première utilisation, route ouverte. T'as une deuxième utilisation qui est route fermée, mais du coup bloquée juste pour le tournage. Donc là, c'est en autorisation avec la préfecture ou avec la police. Tu fais entre guillemets un petit peu ce que tu veux, mais par exemple, t'as pas le droit d'équiper ta voiture avec le setup à l'avant entre l'hôtel et le lieu de tournage.
Ouais, bien sûr.
T'es sur route ouverte.
C'est une fois que t'arrives sur place.
Sur place, voilà.
Okay.
Donc, tu fais ce que tu veux. Et parfois, t'as des routes comme ça qui sont ce qu'on appelle tamponnées, où t'as des tamponneurs qui sont au point d'entrée, au point de sortie de ta route. Et tous les 15 minutes ou tous les 10 minutes, ils laissent passer les voitures, tu vois. Parce que si t'es sur une nationale en campagne, tu peux pas non plus complètement bloquer pendant 20 heures la route, tu vois. Donc, tous les quarts d'heure, au toki, hop, ils laissent passer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les tampons, en fait. Et après, t'as un autre type. Donc, le troisième type, c'est vraiment sur circuit ou route privée ou complètement fermé pendant 24 heures pour le tournage intégralement. Ou là, c'est déviation et tout le bordel. Parce qu'en fait, dès que tu mets du matériel devant le pare-brise, c'est interdit. Même au-dessus du pare-brise, c'est interdit. Ça devient interdit. T'as pas le droit de mettre de matériel devant toi, puisque ça t'obstrue.
Bien sûr, la vision.
C'est un des points pour la France.
Oui, après, voilà, je crois pas qu'on soit très écoutés. J'ai vu qu'on avait des écoutes en Amérique du Sud il y a pas longtemps. Mais on va savoir si c'est quelqu'un avec un VPN ou...
Ouais.
On ne sait pas. Mais en tout cas, si vous nous écoutez depuis la Colombie, vérifiez bien la loi là-bas.
Oh là, j'imagine le mec qui s'est excité. Tu commences à...
Il y a un mec en Colombie, c'est qui écoute ce podcast.
Ouais.
C'est pour toi, mec.
Bienvenue à toi.
Incroyable. Pour clôturer vraiment cette parenthèse légale, on va dire, il y a deux sujets qui m'intéressent. C'est qu'en général, quand on a envie de faire des plans de voiture et qu'on n'a pas du tout les moyens ou les budgets pour faire appel à tes services, par exemple, on va soit ouvrir le coffre, ce qu'on disait tout à l'heure, et se mettre à l'arrière. Il y a des manières de faire ça qui permettent de le faire de façon sécurisée et même légale, je sais pas.
Légale, non.
Légale, non.
Je
okay.
dis non tout de suite.
Ça, c'est mort. C'est... Ouais, coffre ouvert, assis dans le coffre, ça n'existe pas.
Non, voilà. Okay. Et même sur route semi-fermée ou fermée.
Ça n'existe pas.
Ou alors, faut prévenir et être en accord avec la sécurité du tournage et la personne qui assure le tournage.
D'accord.
Mais t'es limite considéré comme un stunt, en fait.
Okay.
Comme une cascade, quoi, tu vois.
Bien sûr.
Parce que t'as quand même quelqu'un qui roule plus ou moins vite avec un coffre ouvert. C'est ultra dangereux, vraiment.
Bien sûr.
Par contre, même si on le fait super souvent, c'est vraiment, vraiment très dangereux. Et du coup, tu peux mettre un harnais de sécurité. Tu peux mettre juste la ceinture. Tu peux à l'envers, tu vois, tu tires la ceinture arrière, tu vois le mec. Quoi.
Bon, faut pas trop donner de conseils en fait là-dessus.
Tout, ouais, voilà.
Faut peut-être pas trop donner de conseils exactement sur
ça,
la façon de le faire. Parce que comment c'est super dangereux, super illégal. Alors voilà comment vous pouvez le faire.
Non, mais voilà, c'est juste de la logique. Mais de toute façon, de manière générale, c'est ce qui me plaît aussi dans la machinerie, c'est que c'est beaucoup de logique en fait.
Ouais.
Tu vois, c'est juste des rapports un peu poids-puissance ou juste de la cinétique de l'énergie, des choses comme ça. Si tu freines comme un porc, si t'as 20 kilos déportés derrière toi, c'est sûr qu'il
ça
va aller vers l'avant.
Ouais.
Tu vois, qu'il va aller taper. Donc, c'est pareil quand tu te mets dans le coffre. Si ton pilote, il tape une énorme accélération d'un coup.
Ouais, il y a Régis avec la caméra, il s'en va, quoi.
Ouais. Ou peut-être, même si c'est pas toi, ça peut être ton matériel. Et il faut jamais aussi oublier que ton matériel qui saute ou tout l'objectif qui tombe par terre, ou tes lunettes de soleil que t'as pas bien accrochées parce que t'as pas anticipé l'accélération, elles peuvent faire peur aussi au pilote qui est derrière toi.
Qui est dans l'autre voiture, ouais.
Donc, ou même l'écraser, tu vois, écraser ton objet, du coup, le faire dévier. Enfin, tu vois, c'est des trucs on se dit, ah ouais, c'est drôle et tout, ouais, mais gros, quand t'as une Ferrari ou une Lambo à 300 000 balles derrière toi et que ton objet, il tombe sur le pare-brise, qui paye, tu vois.
C'est un peu problématique, quoi.
Et que t'es pas assuré parce que, ouais, c'est cool, c'est bon, on le fait entre nous. Donc, c'est pour ça que je
Donc jusqu'à présent,
garde,
ça, t'as jamais
je
eu de.
Suis un peu avocat du diable, mais...
Non, mais t'as raison. Jusqu'à présent, t'as jamais eu de cas comme ça. T'as réussi.
Non, on se sécurise au maximum. J'adore faire la comparaison avec un pilote de drone. Mmh. Le mec, avant qu'il décolle, il a vérifié 3 fois ses hélices, il a son parachute, il sait que, tu sais, quand t'as des gros, plus que des inspires, des matrices et des trucs comme ça, c'est pour ça que je parle de parachute, mais quand t'as du matos qui vaut cher, que t'es prêt à envoler, bah voilà, le mec dans sa tête, il est assuré, il a vérifié sur tous les sens du terme.
Rapide pause dans l'épisode. Avec la petite équipe de lightteacher.com, on met tout notre cœur dans ce podcast pour mettre en avant des personnes extraordinaires qui font l'audiovisuel d'aujourd'hui et de demain. Alors si grâce au podcast, vous avez appris de nouvelles choses ou que simplement vous aimez ce que vous entendez, le plus beau cadeau que vous puissiez nous offrir est de nous laisser un avis sur Spotify, Apple Podcasts ou même de partager cet épisode avec une personne qui pourrait l'apprécier. Ça peut sembler anodin, mais en fait, c'est énorme pour nous et moi, ça me fait toujours super plaisir de lire vos retours. D'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez même le faire dès maintenant, c'est l'occasion parfaite, car la musique dure encore quelques secondes avant de se replonger dans l'épisode. Merci beaucoup.
Tu nous as parlé un petit peu de la technique de la caméra car et de certaines techniques de prise de vue. Est-ce que tu peux nous détailler comment on réalise une pub automobile? C'est quoi les étapes?
Par exemple, sur le lancement d'un nouveau véhicule, puisque c'est souvent ce schéma-là qui se produit sur publicité auto, c'est pour promouvoir un nouveau véhicule qui va sortir. En général, les marques font appel à des très grandes agences. C'est super rare de faire appel à des freelances directement, mais vraiment giga rare. L'étape clé, c'est big agence. Du coup, ces grosses agences ensuite appellent des agences de production exécutive. Donc là, c'est des plus petites agences qui ensuite appellent des profils un peu comme le mien ou des profils de réalisateurs, tout simplement. Et du coup, bah, moi, si par exemple, je suis uniquement technicien, bon, bah là, c'est juste l'agence de prod exé qui m'appelle juste pour faire la technique. C'est tout, comme un grip, et du coup, j'ai pas à savoir le reste. Par contre, si j'ai la casquette de réal, bah là, je participe dès le début, donc avec les différents directeurs artistiques en général, donc autant de la marque que de l'agence, parce que c'est souvent une corrélation entre les deux. Faut quand même que l'agence donne son attention aussi. Il n'y a pas que le réalisateur, il faut quand même respecter. On est dans la publicité, tu vois, tu
fais
un court métrage, tu vends quand même un produit. Donc s'il faut montrer, par exemple, le coffre qui s'ouvre super facilement, l'espace disponible et je sais pas la fluidité de la conduite. Bon, bah voilà, tu vas construire ton storytelling autour de ça, tu vois.
D'accord.
En accord avec les différents directeurs artistiques. Tu vas commencer à faire des brainstorming si tu as l'occasion de ça. Ensuite, tu vas faire des notes d'intention pour le parcours du réalisateur. Sur cette base de notes d'intention de storyboard, bah, du coup, l'agence de prod exécutive va commencer à repérer des lieux pour toi, des pays, peut-être s'il faut un décor chaud alors qu'on est en hiver, des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure, ça peut prendre plusieurs semaines. En général, une publicité automobile, comme on l'entend, genre une pub télé, je sais pas, plus de 100 000 de budget, ça prend peut-être plusieurs mois, je veux dire 3 mois, choses comme ça. Bon, souvent, on a des modèles exclusifs, des prototypes, ou alors les toutes premières séries de
sortie d'usine,
d'usine de la voiture. Mais en général, c'est plus des protos sur ces types de véhicules de lancement. Souvent, sur tous les tournages automobiles, il y a toujours des car prep. Donc, c'est des gens qui connaissent très bien le monde de l'automobile et qui préparent la voiture de manière à ce que si tu as posé un cadre, un carface, et ben du coup, la jante, elle va être impeccable, le feu va être impeccable du côté où tu filmes.
Okay.
Et vu que c'est une voiture, elle est tout le temps sale, bah du coup, elle, à chaque
ils seront non-stop en train de nettoyer.
Il y a toujours un petit kit de survie sur place, puis il refait un petit coup. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu les différents intervenants qu'il y a. Et puis après, bah, arrive le fameux jour du tournage où bah, du coup, tu es en... Le réal discute autant avec le chef op que le DA. Donc c'est vraiment les deux personnes avec qui tu discutes tout le temps en fait sur une publicité auto. Le DA de l'agence ou le DA du client de la marque auto. Et puis bah ton chef op parce que c'est un peu le garant de ton image. Le son de toute façon on s'en fout, on verra en post prod. Enfin,
Ah non, non, ça, on peut pas se permettre ça.
C'est ça, c'est quand t'as pas le visuel, mais j'ai un tatouage, on verra en post-prod.
Ah, pas mal.
Juste pour, tu vois, c'est tellement une joke, running gag à chaque fois. Non, j'adore les gens du son, t'es fou. Non, non, bah, du coup, mais le son, tu vois, c'est un peu un département qui est un peu plus indépendant. Du coup, ils vont faire leur son seul. Évidemment, tu parles pendant les sons seuls, sinon c'est pas drôle.
Bien sûr. Non,
voilà, le son, c'est un petit peu à part. Ils riguent souvent des micros HF aussi derrière les voitures, des choses comme ça.
Ah, je me posais la question, ils riguent des micros HF à l'arrière de la voiture pour vraiment prendre les bruits du moteur dans le virage précis où c'est en train de filmer.
Alors c'est vrai que c'est pas forcément mon domaine, mais je kiffe de fou vraiment.
C'est ce que t'as pu voir en tout cas.
Ouais, ouais. Et du coup, ouais, il y a plein de techniques de mettre des micros HF à l'intérieur du moteur, à l'intérieur de l'habitacle, ou ventouser à l'arrière pour avoir les bruits d'échappement.
Ah, j'aurais pensé que sur des pubs automobiles, on aurait été sur uniquement de la post-prod.
Non, du tout. Non,
refaire les sons en post-prod, des virages, des trucs.
Ah, non, trop pas, parce que justement, chaque son de voiture a une tonalité différente, et sur un lancement d'une voiture, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le groupe Renault Alpine. Alpine, c'est un son qui est quand même super propre à la voiture. Donc, s'ils changent des façons de...
Oui, tu peux pas refaire l'enregistrement dans un garage vide, ça n'a pas de sens.
Tu peux travailler avec des bibliothèques de sons. Donc, mais si c'est un nouveau modèle, il faut absolument un son direct.
Bien sûr, place, ok.
Et du coup, tu as souvent des équipes d'écho qui vont aller chercher. Du coup, moi, je m'en occupe pas énormément parce que c'est plus propre à l'ambiance de la marque et ce qu'on veut faire. Mais du coup, voilà, tu discutes énormément avec le DA et puis ton chef-op. Chef-op qui va être garant de l'image. Du coup, lui, tu vas parler de technique. C'est aussi ce que j'adore dans le métier de réalisation, c'est de réalisateur, c'est que tu parles autant hyper techos avec ton chef-op de diaph, de cellules, de filtres, et juste après, tu vas parler à un DA d'intention de jeu, de placement, de mindset, de lifestyle, de trucs comme ça. Donc ça, c'est un peu ce côté art et science qui est super intéressant. Et du coup, voilà, une fois passé le tournage, je vous zappe un peu la partie tournage parce que c'est la partie que tout le monde connaît le plus.
Peut-être juste sur la partie de tournage, si je peux, deux secondes quand même.
Ouais, bien sûr.
Tu t'as donné déjà quelques tips, mais c'est vrai qu'il y a des manières de filmer quand même une voiture. C'est pas anodin qu'on n'ouvre juste pas la fenêtre avec la caméra ou avec un rig.
Ouais.
Il y a quand même des techniques un petit peu pour filmer, donner une sensation de vitesse, de mouvement, de...
À fond, bah, ces techniques-là, en fait, tu les apprends en pratiquant, en testant et surtout en montant tes propres films. Parce que ce que je reproche à pas mal de réels qui montent pas forcément leurs films, c'est que du coup, tu perds cette suite de plans, en fait, cette connexion que t'as au naturel, au tournage, de te dire, OK, c'est quoi le plan d'avant, c'est quoi le plan d'après, est-ce que ça va matcher ensemble? Et du coup, il y a plein d'astuces. En fait, tu connais au fur et à mesure les plans qui vont marcher, quoi. Tu vois, tu sais que les 1/4 face en rolling avec la caméra basse, et si tu as des lignes au sol qui défilent devant la caméra, tu sais que ça
va
marcher. Les optiques longues, comme je te disais, ça, je sais que ça va marcher parce que ça écrase le fond. Tu es en montagne, je te parlais de la petite corniche avec Monaco derrière en zoom. Au plus tu zoomes, au plus tu vois Monaco, le lac, la voiture, avec des proportions qui sont respectées aussi. Même si je viens du sketch, j'adore les fisheye et tout, mais putain, c'est très dur de les utiliser.
Ouais, bien sûr.
Même si j'adore ça, à part dans les habitacles, où là, tu vois vraiment l'habitacle qui est plus grand que ce qui peut être si tu shootes au 10 mm. Tu vois. Mais en tout cas, plutôt en rolling, ouais, tu vas essayer d'aller dans des optiques serrées. Et je te balance un ou deux titres comme ça qui me vient par la tête. Tu shootes pas une voiture à hauteur des yeux parce que allez, tu vois, ça l'écrase un petit peu. Tu
Bien
vois,
sûr.
T'es un peu au-dessus. En général, du capot, c'est dégueulasse. Donc, tu vas plutôt te mettre au niveau des feux.
En contre-plongée un petit peu.
Ouais, en tout cas, un peu plus bas. Tu vois, tu vas aller chercher souvent des caméras un petit peu plus basses. Tu vas essayer d'aller chercher plutôt des 1/4 et des 3/4 plutôt que des profils ou pleine face. Ça peut être joli pour montrer la signature des feux. Mais en tout cas, tu vas essayer d'aller plus chercher la ligne, tu vois, dans la voiture. Et du coup, c'est plus sur des points de vue où tu tournes autour du 1/4. Tu vas essayer d'aller faire des mouvements, ce que j'appelle le mouvement d'essuie-glace en steadicam. Si tu fais des gauche-droite, autour, tu viens de face jusqu'à te mettre quasi de profil. Et ça, c'est des mouvements, tu vois, qui marchent bien. Et puis, c'est le travail de réalisation. Donc là, je peux pas te
dire
dans le détail comment réaliser. Tu vois, il n'y a pas de recette parce que ça dépend le film, quoi. Mais voilà, il y a certaines règles à respecter, pas trop haut, voilà, pas à hauteur des yeux, pas de gros fisheye, sinon tu niques toute ta sensation de vitesse pour les rolling, des choses comme ça. Et donc, une fois que tu as tout ton... Ah oui, d'ailleurs, avant de fermer la parenthèse du tournage, moi, j'utilise souvent plusieurs caméras parce que j'en laisse une sur la caméra car et une à la main, ou Steadicam, EasyRig, qu'importe. Mais vu que c'est des setups qui sont assez lourds et des rigs...
Oui, tu vas pas démonter la caméra toutes les deux minutes, ouais.
Ouais, voilà, sur les pubs auto, c'est, j'allais dire rare, mais c'est même pas arrivé une seule fois sur une seule des pubs sur lesquelles j'ai participé où il y avait pas minimum deux caméras.
Ouais.
Donc souvent, c'est deux, voire trois. Parce que parfois, t'as ouais, peut-être un rig, sens, ouais. Casque, t'as une caméra qui est hyper allégée pour faire les plans à l'intérieur de la voiture, t'as une caméra qui est plus conséquente pour aller faire les plans lifestyle, et t'as une caméra qui est riguée sur la caméra car.
Ok.
Voilà, c'est toujours deux, voire trois caméras. Et du coup, les mêmes, hein, la même marque, il faut que ça matche, tu vois.
Donc, j'imagine, ouais. Sauf si on veut un style un peu VHS avec une vieille cam.
Voilà, et... là, c'est des là, exemples.
C'est une envie artistique, on va dire. Ouais, mais
voilà,
sinon, oui.
Pareil, même... une GoPro riguée ou un truc comme ça. Moi, j'évite les GoPro maximum parce que, bah, quoi que même si ça s'améliore, mais du coup, ça stabilise tellement. Puis t'as tellement une image propre à la GoPro que tu pisses tout de suite que c'est une GoPro.
Okay.
Donc, je vais plutôt aller chercher des boîtiers, des petits boîtiers Sony, des crash cam, tu vois ce qu'on appelle. À la base, la Red Komodo, elle est sortie comme une crash cam, des grosses Red. Mais okay. Bon.
Ça fait un peu mal au cœur là
d'aller. Ouais, non, ça fait mal au cœur. Mais il faut plutôt utiliser un petit Sony A6300 okay. Ou un petit boîtier qui peut faire de la 4K, qui peut avoir un minimum de réglages. Puis bah là, du coup, tu peux te permettre de ventouser le truc et d'aller filmer depuis la porte vers la jante. Et s'il se prend des cailloux, bah tu vois, tu changes ton filtre ou un truc comme ça, mais c'est pas encore trop grave. Donc pour les cams embarquées, les crash cams ou sur le bord de route, tu vois, j'adore les. Tu me parlais des références YouTube, les Gymkhana, tu vois, les ouais. Films Gymkhana, c'est des masterclass à chaque fois ça, avec Ken Block. Et du coup, une fois que t'as plié ton tournage, la partie post-prod qui est souvent longue parce que t'as beaucoup d'intervenants, t'as l'agence de prod exé si jamais elle veut mettre un petit nez dedans, t'as l'agence globale, donc la grosse agence, et t'as le client, sachant que chez le client il n'y a pas qu'une seule personne qui valide, tu vois, ton film tu sais qu'il va se faire bombarder par 5 personnes, tu vois, et du coup chacun va donner son avis, c'est justifié encore une fois, il n'y a pas de souci, mais du coup tu sais que tu vas te prendre des retours parce qu'au fur et à mesure de l'évolution de voilà, comment on veut montrer le film, comment on veut montrer la voiture, comment on veut montrer l'ambiance aussi, hein, c'est beaucoup le background autour du véhicule. C'est aussi pour ça que souvent les pubs de voitures sont tournées dans des villes un peu iconiques, cinématiques. Du coup, par exemple, Hambourg, tu vois, on a shooté à Hambourg, c'était canon, et on a été sur un pont pour Alpine. Ce pont-là, une semaine après, j'avais vu chez BM, et trois jours
ouais, avant, tourne au même endroit,
chez Audi. Pas forcément au même endroit, mais en tout cas, tu vois, t'as des lieux un peu iconiques du monde de l'automobile, comme les grands circuits, comme le Nürburgring, des choses comme ça. Et du coup, voilà, en post-prod, tu sais que tu vas te manger des retours. Et aussi, niveau colo et niveau son, ça va être super précis. Parce que du coup, tu vas avoir les clients qui connaissent de fou leur voiture. Mais vraiment, ils vont vouloir qu'elle ressemble exactement à ce qui a été dessiné.
Ouais, ce que tu disais juste avant, il faut que ça colle en termes de couleurs.
Si t'as le designer qui est là, qui a dit, le gars, on a mis 100 000 euros en développement ou 1 million en développement.
Pour avoir ce rouge.
Ce coloris-là pailleté et tout, t'as intérêt à ce qu'il soit là et tu vas me dégager ton filtre, ta lutte dégueulasse, là. Et tu vas me faire un truc, tu vois. Voilà. Et pareil au son, il faut que ce soit le son propre à la voiture. Donc, en post-prod, c'est beaucoup de travail là-dessus. C'est là où ça se joue vraiment. Hein. De toute façon, tu peux réécrire ton film après en montage. Tu peux même réexploiter des plans de transition. Il y a des plans de transition que j'exploite sur différents films.
Okay.
Une petite banque d'images, de routes qui défilent, de feux qui passent au rouge, au vert, de petites transitions, tu vois, les mini-transitions comme ça. C'est pas les hero shots de ton film.
Bah, j'imagine, oui.
Mais ça te sert toujours à faire un petit volet, un truc comme ça. Tu l'as sous la main. Soit tu vas taper dans une banque de stock.
Dans une banque d'images, ouais.
Mais si t'as les tiens, toi, qui sont tournés avec ta propre caméra.
Ouais, c'est quand même mieux.
C'est quand même mieux, ouais. Pour l'étalonnage, c'est quand même mieux. Donc voilà, la post-prod, souvent, c'est assez long.
Donc depuis quelques temps, t'as lancé la formation Automotive Filmmaking. C'est quoi l'idée qui est derrière? C'est de permettre justement à tout le monde de pouvoir faire ça de manière sécurisée, de lancer sa propre, ton propre concurrent.
Exactement.
T'es en train de former tes concurrents,
ouais,
c'est ça l'idée?
Ça. En fait, à la base, je l'ai fait en français, et puis après, j'ai toujours commencé en anglais, donc avec cet épisode à New York, là, il y a 6 mois. Et parce qu'on avait ce même constat avec Choix Film, qui est aussi un petit peu influenceur quand même, il a 200 000 abonnés sur YouTube, il fait que des vidéos de voitures, et ça faisait plusieurs années qu'on se parlait sur les réseaux sociaux. Il a constaté un peu la même chose, c'est que autant aux États-Unis qu'en France, il n'y a pas d'organisme de formation, Il y a très peu de livres dédiés à la machinerie et c'est énormément du bouche-oreille. Tu vois, j'aime bien les parallèles. Bah, je vais faire le parallèle avec le monde du tatouage. Tu vois, il y a très peu d'organismes de formation de tatou. C'est beaucoup de père en fils, un peu de, enfin, pas de père en fils, mais en tout cas de shop en shop. Et tu te fais former par un mentor et qui va t'apprendre tous les petits trucs du métier et sur le terrain. Du coup, tu vois, les Camaracars, c'est un peu ça. Du coup, on arrivait avec ce constat de putain, nous, on a galéré vraiment pendant des années à se former sur des courts-métrages bénévoles, à tester, à se planter, à bidouiller des trucs, à voir ce qui marche pas. C'est hyper bénéfique pour nous, tu vois. Mais est-ce qu'on proposerait pas un raccourci pour nos amis et filmmakers? Et moi, là-bas, je n'ai pas du tout prévu d'être formateur, tu vois.
Je suis forcément
méga pédagogue. Tu l'apprends au fur et à mesure que tu fais. Mais voilà, et tu réponds un peu aux besoins des gens. Et surtout, j'ai vu que ça pouvait intéresser beaucoup de gens parce qu'on m'envoie souvent des MP. Tiens, comment tu fais ça? Montre-moi une photo de ce truc-là sur des groupes Facebook ou sur Insta. Tu vois, ça, je sais que ça intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de stalkers, tu vois. J'ai pas autant de likes que de vues sur mes stories. Tu vois, c'est ça qui est chelou. Putain, les gars,
likez,
quoi. Like, merde, tu vois. Non, mais donc, en gros, on s'est dit avec Sam, faisons une vraie formation, investissons de l'argent dedans. Et on sait pas si ça va marcher ou pas. On l'a fait en anglais. Mais on s'est dit, vas-y, nous, ça nous fait kiffer. On veut le faire pour les filmmakers. On va lancer cette formation-là. Et on a shooté tout ça. Il y a plusieurs heures de contenu où on va détailler exactement tous nos setups depuis la Ventus GoPro jusqu'à Black Arm, Red Gemini, en optique ingénieux.
Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de, bah, d'avoir une BM à 70 000 plus tout le matos que ça demande derrière pour le mettre en place.
On s'est mis dans la peau de, en fait, un auto-entrepreneur qui en fait tu vois je peux pas m'empêcher de parler de JC mon pote c'est une bonne connaissance que t'as accueilli ici sur ce podcast. Allez voir son épisode, allez écouter son épisode, c'est le mec qui fait des gros placements en plein milieu.
T'as raison. Les placements pour le podcast, dame. Pas de souci.
Voilà. Mais je suis trop fier parce que du coup c'est des chefs op en fait, il y a un chef op
qui vient de se renseigner,
qui a un background sur Netflix ou des apprentis machinaux ou des filmmakers plus qui ont déjà RS3, boîtier, gimbal, qui louchent beaucoup sur le Tilt Hydra ou qui l'ont déjà acheté mais du coup qui l'ont testé, c'est de la merde. Et parce que du coup, il suffit pas d'acheter le matériel.
On ne fera jamais de partenariat avec Tilta, merci.
Ouais. Non, c'est de la merde, le résultat. Non, attention, j'ai pas dit. Non, je reprends. Le Tilta Hydra, c'est très bien, mais si tu sais bien le perfectionner.
T'en servir,
il y a eu deux versions. Il y a eu une première version où les ventouses marchaient pas, du coup, moi j'étais à version 2. Tu vois, il y a plein de petites astuces. Move Max aussi qui ont sorti un très bon bras. Il y a le Rig Wheels aussi. Il y a le Ray Rig. J'ai des intervenants, en fait, avec Chris Ray, un influenceur aussi américain, qui a quelques milliers d'abonnés, je dirais, peut-être 100 000 ou un truc comme ça, pour à peu près, voilà, vous jauger un peu le potentiel du gars qui travaille avec le Super Bowl, les films de promo du Super Bowl, ou DC Shoes, enfin vraiment des grosses marques. Et du coup, il a carrément son rig à lui. C'est le Ray Rig.
Incroyable.
C'est le truc au calme.
Pas mal. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est la prochaine étape, le TL Rig.
Ah, putain, ça serait énorme.
Ça serait énorme.
Mais du coup, il est intervenant là-dessus. On a même Nathan Etty qui a dessiné deux de mes voitures, qui fait des coverings, en fait, de voitures, pour expliquer comment on fait, comment ça coûte, les bons usages, en fait, du covering aussi, qui a un monde hyper particulier. Je faisais parler avec le monde du tatouage, tu vois. C'est un peu des trucs, des univers très secrets, tu vois.
Bien sûr.
Donc, nous, on a été, vas-y. On va interviewer ces gens-là, alors c'est hyper niché.
Ok.
On s'est fait un kiff pour nous aussi.
Hi guys, we have created the world's first automotive filmmaking course just for you.
From pre-production to delivery, including thousands of tips and advice.
And we shoot that around Europe and here in the US with recognized speakers.
This rig here, this is in inverted mode.
This course is extremely valuable. We teach you everything from safety procedure, proper safety procedure, rigging, camera towards the back a little bit, so automotive tips and tricks, how to get clientele. So knowing your gear front to back is extremely important.
Just like that.
This is an investment in yourself.
It's live now, so join us.
coup, pour se lancer dans ce monde-là, c'est quoi un peu les prérequis? C'est même en termes de budget, c'est quoi? Il faut 50 000 balles pour essayer de se lancer dans cette activité-là?
Non, du tout. Non, il y a pas de prérequis. Hein. En fait, tout dépend le résultat final que tu vas avoir.
Ok.
C'est sûr qu'un peu le rêve des filmmakers, c'est d'aller chercher des grosses caméras Arri, des choses comme ça. Mais
on n'est pas obligé, ouais.
C'est pas nécessaire, ouais, forcément. Je pense que tu t'en rends compte au quotidien et que tu peux faire des très belles choses avec des moyens plutôt modestes. Donc, le but d'une caméra car, c'est d'aller chercher des plans fluides, en fait.
Okay.
D'aller chercher le plus de fluidité possible. Donc, si tu as un gimbal que tu peux contrôler, et aussi de les contrôler aussi, tout en gardant la sécurité. Donc, tu vois, franchement, le budget pour débuter, je dirais, c'est la GoPro Ventouse. Et après, tu fais step up. C'est toi qui mets le cran, en fait. Si t'as 5000 euros, tu peux faire une caméra car pour 5000 euros.
Et alors, parce que tu me parlais à un moment, justement, du choix de la voiture, ça a son importance par rapport à quoi? Au poids-puissance, au...
Voilà. On imagine souvent que le monde demande, ah, alors elle pousse et tout, t'as pas pris une M3 ou un truc de port, tu vois. Je dis, bah non, en fait, parce que 90% de mes tournages, j'ai pas besoin de puissance. Parce qu'en fait, ça fait vraiment 4-5 ans que je fais ça, des films 100% automobile, pas forcément que en caméra car, hein, mais tu vois, tu peux faire un panoramique gauche-droite pour avoir des sensations de vitesse. On a besoin souvent de montrer la sensation de vitesse. Ou pas forcément, tu vois, j'ai fait des pubs pour Mini, pour Renault, pour des véhicules Honda électriques, vraiment, tu parlais de la Yaris, de ce genre de modèle, donc pas du tout en mode...
Ouais, on n'est pas sur circuit à 150, ouais.
Hybride tranquille, même là, récemment, j'ai même fait une pub pour Cyclable, magasin de vélo.
Ah bah oui, mais ouais, t'as même construit un rig vélo.
Ouais.
Ouais,
bon là, c'est encore des extensions de... Tu vois, c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que quand t'as une caméra car, bah, je l'ai déjà adapté sur une motoneige qui était à 70 km/h à peu près, qui filmait un gros plan 100 mm d'une spatule de ski sur une piste de ski. Donc t'imagines le truc qui tremblait comme jamais.
Comment tu fais pour stabiliser ça?
Eh ben, Black Arm, tu vois, le gros bras stabilisé que vous avez vu, avec le Ronin 2 en dessous, une RED, une optique ingénieuse zoom, Medbox, tout, un pilote de motoneige, un opérateur derrière, et puis les gros Teradek 3000 avec des antennes relais sur la piste de ski. Et du coup, moi, je me suis occupé de la partie machino là-dessus, tout seul, autour d'une motoneige, voilà, pour un film Red Bull, Richard Permain, qui était réalisé par Maxime Moulin, produit par PVS. En montagne. Et tu vois, ça, c'est les petits side projects en plus de la caméra car. Et du coup, là, je développe en ce moment un vélo sur une base de vélo Yuba ou Scott électrique pour pouvoir aller faire des plans aussi sur des pistes cyclables où la voiture passe pas.
Incroyable.
Là, c'est des petites extensions.
Ouais, voilà, on arrive dans la version écolo de TL Films.
Ouais, mais ça me plaît en plus, hein, c'est cool. Hein. Mais du coup, pour reprendre la question initiale qui a été le modèle de voiture, on peut en parler aussi super longuement. C'est que ça dépend de vos usages et ce que vous allez avoir besoin. Par exemple, si vous voulez plus shooter off-road, bah, sûr, vous allez naturellement vous diriger vers un Can-Am ou une Jeep ou un engin dédié à l'off-road, tu vois, avec des suspensions super hautes, des choses comme ça, ou un quad, tu vois. Après, si, comme moi, c'est plus la mobilité urbaine ou le circuit, ou du moins les publicités auto, tu vois, vraiment la pub auto standard que tu vois avec la voiture couchée de soleil sur Monaco derrière,
sur une petite route en Corse,
voilà, ce genre de truc. Moi, c'est le genre que je kiffe. C'est vers là où je veux aller le plus possible. Bah, du coup, il faut, moi, un break, ça me va très bien, tu vois. Ça peut accueillir du monde, il y a une place dans le coffre, il y a le coffre de toit pour mettre tout le matériel. Donc, c'était vraiment le format de voiture avec toutes mes petites options que j'aime bien. Avec l'anneau de remorquage déporté sur le côté, avec les barres de toit comme je veux, avec le coffre de toit, le
toit ouvrant pour pouvoir passer les câbles.
Pour passer les câbles. Tu vois, c'est toute une checklist. Pareil, le coffre, la lunette arrière du coffre s'ouvre. Donc, on peut passer sa main une fois que la structure tubulaire elle est montée.
Ah oui, parce que sinon, tu peux plus ouvrir le coffre. Ouais,
ouais, voilà. Okay. Du coup, pour accéder à un câble et tout, t'imagines si t'as ton client derrière. Ah, attends, excuse-moi, faut que je passe là. Enfin, tu vois, et du coup, tout a été optimisé. Les câbles, ils sont passés dans les sièges. Et enfin, tu vois, en fait, la voiture, elle a été transformée, mais pas tellement parce que je peux tout enlever.
Ouais, tu peux partir en vacances avec, sans souci.
Ouais, exactement. C'est ma voiture de tous les jours, hein, parce que j'ai pas non plus le budget pour avoir plein de bagnoles. Donc, je me suis fait plaisir sur une belle voiture neuve, une routière, hein, vraiment, c'est vraiment une routière. Et du coup, voilà, un peu le choix de la voiture, ça dépend aussi de ton usage. Et n'importe quelle voiture peut être transformée en caméra car, quoi, à condition qu'elle ait quand même une bonne base solide et plutôt une voiture assise au sol pour pouvoir être bien stable.
Ok. Bon, on évite de partir sur une deux chevaux, mais en réalité, ouais. Pourquoi pas?
Après, pourquoi pas? Parce que du coup, ça a tellement de ressorts, là. tellement de suspensions, c'est incroyable, c'est casse. T'as déjà conduit ça, là?
Non, jamais.
C'est
non.
Un truc de fou.
Ça doit être un.
C'est genre le siège, il bouge tout seul.
Ouais, ça doit être carnaval, ça. Ça ouais, doit être marrant.
Un Dodan. Puis gros, tiens.
Sur tous ces tournages, il y en a un qui t'a marqué particulièrement?
Tiens, ça n'est pas cette question. Pourtant, elle était.
Là, les prochaines questions, c'est que des questions un peu genre ah bah t'aurais dû me prévenir il y a deux jours. Et c'est les dernières.
Bah franchement, non, il y a pas de tournage qui m'a marqué plus ou moins. Si après, si le gumball avec Pog, parce que ça s'était mal passé, donc c'est marquant, mais pas forcément dans le bon sens.
Ah merde.
C'est des raisons qui nous regardent. Okay, je pourrais pas développer là-dessus. Mais c'était un tournage super éprouvant et en même temps super bien au début et moins bien sur la fin. Après, malheureusement, si, il y a d'autres tournages, mais j'ai des NDA, du coup, je peux pas trop en parler.
Ah, qui sont pas sortis ou.
Ouais, ou qui sont sortis, mais avec des clauses spécifiques.
Ah, donc tu peux pas parler du tournage, même ouais. Sans dévoiler forcément ce que c'est.
Ouais, voilà, quand tu. Ouais, c'est vrai que. Enfin, il y a certains gros projets où. Qui sont soumis comme ça à des
ouais, bien
conditions.
Sûr.
Donc, tu peux pas trop en parler.
bon, on va. Et on va biper toute cette partie.
Ouais,
de,
on va skipper cette partie
de l'épisode.
Ouais. Malheureusement, parce que moi, parfois, il y a des shots. Je rêve de faire des making-of là-dessus, mais
ah
tu
ouais.
peux pas, tu vois. Ouais. Bah, même là, récemment, tu vois, je travaillais sur des lancements de voitures, par exemple, la nouvelle Alpine Radicale.
Ok.
Donc, on a shooté en studio, là.
On peut voir d'ailleurs quelques images sur ton Instagram, il me semble, de
celle-là.
Ouais,
il y a des teasers qui sont sortis, pas tout est sorti. Alors, je sais pas si, à l'heure de la diffusion du podcast, peut-être que tout sera sorti. Mais, c'est vrai que quand tu travailles aussi sur des milieux comme ça, automobiles, où il y a plus ou moins de budget, il y a aussi beaucoup d'intervenants. Donc, c'est des projets qui sont très vite compliqués, qui sont longs, tu vois, parce que, t'as peut-être 5 personnes côté client, t'as 5 personnes côté agence. Du coup, t'as plein de strates de validation. Et c'est vrai que c'est plus forcément exactement ce que tu as pensé à l'écriture de ton film. La version finale qui est peut-être la V15 ou V10, du moins, où il y a plein d'allers-retours de différentes personnes justifiées. Hein, je remets pas ça en cause. Mais c'est vrai que parfois, les projets évoluent et t'es sur des projets qui sont tellement confidentiels, tellement gros, que du coup, interdiction de prendre des photos, making of, interdiction d'en parler, tu vois, des choses comme ça. Donc, parce qu'en fait, il y a tellement des gros enjeux, quoi, tu vois. Pareil, à l'étalonnage, tu vois, c'est super passionnant parce que les marques, c'est la bataille des couleurs. Tu vois, t'as le Grinardo qui appartient à telle marque, t'as le Purple de telle marque. Du coup, il faut vraiment avoir la couleur de cette voiture-là. Tu vois, je sais que Porsche, ils sont hyper vigilants là-dessus. Il faut que ce soit la couleur exacte qui soit ressentie dans la vraie vie, quoi. Donc, t'as des enjeux techniques parfois qui sont vraiment chauds, quoi, quand tu fais de la publicité automobile.
Ah oui, j'aurais pas imaginé ça.
Ah ouais, il y a beaucoup de choses qu'on me disait ça, on n'aurait pas imaginé. Pareil, les sensations de vitesse, d'ailleurs, tiens, je refais une petite parenthèse là-dessus. Pourquoi aussi j'ai pas pris une M3 plutôt que une bonne routière, tu vois, qui est à 200 chevaux, c'est pas dégueu, hein. Mais,
oui, ça a pas l'air de se traîner quand on la voit, elle donne pas l'impression
non,
clairement
que. Pas, mais, ouais. Mais c'est pas non plus une caisse de folie pour aller drifter sur circuit, parce que du coup, c'est pas le but. Déjà, tu vas l'alourdir comme un malade, et on est 5 personnes. Et c'est pas nécessaire. Il y a aussi, on peut débattre aussi des véhicules électriques. J'ai pas fait le choix d'un véhicule électrique pour plein de raisons. Mais pour la faire courte, en gros, pourquoi ne pas avoir une voiture super puissante? C'est que, on va faire du off-speed frame rate. Donc, on va faire du 24 images dans du 25 ou du 23 images dans du 25. On a plein de techniques. On va baisser la caméra. On va aller chercher des reliefs, des choses comme ça. Putain, là, je donne des petits tips.
C'est intéressant. Hein.
Il y en a plein. D'aller faire des croisements, des diagonales, des choses comme ça. Et c'est ça qui va donner la sensation de vitesse sur le film final, en fait. Ou des mouvements de caméra car, des chorégraphies, ce qu'on appelle, en fait. Avant les tournages, on fait beaucoup de chorégraphies. Du coup, moi, je viens avec des petites voitures, tu vois. Ou du coup, j'ai ma petite voiture BM, puis j'ai la petite voiture mini, ou c'est la voiture de jeu. Et puis, du coup, on planifie, en fait, un peu tout
les
ça.
Mouvements pour voilà, les pilotes.
Ouais, voilà, exactement. Et c'est via toutes ces astuces que tu vas apporter du dynamisme. Et c'est pas en tamponnant comme un porc avec une grosse voiture puissante. Le nombre de caisses surpuissantes que j'ai vues et que le résultat était dégueulasse derrière, parce que en fait c'était juste mal réalisé, je suis désolé, mais c'est vrai quoi. Tu vois, il faut
ouais, en fait c'est comme pour du stunt, ça va demander de la préparation en amont, savoir les plans qu'on veut exactement pour ouais. pouvoir justement donner cette impression de vitesse,
ouais.
savoir où on va placer la caméra dans tel virage. Et du coup, tu te coordonnes complètement avec le pilote de la voiture de jeu.
Voilà.
Et derrière, vous le mettez en exécution. Et donc, ça veut dire que vous pouvez rouler à 50 km/h, en fait, sur le circuit.
Ouais.
Et que derrière, ton montage et ta façon de filmer va te donner l'impression que vous êtes à 150.
Ouais, alors peut-être pas autant, mais non, en gros, oui, c'est ça l'idée.
Dans l'idée, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça l'idée. Ou pareil, en resserrant l'objectif, tu vois. Tu vas chercher des plans, moi, je peux monter jusqu'à 130. J'ai un Tokina, j'ai deux séries Tokina 11-20 et un 50-135. T2.9, les crantés, qui sont des bons objets, tu vois, rapport qualité-prix, je crois qu'ils sont dans les 4000 euros hors taxe à peu près. Et du coup, j'investis dans cette petite série. Quand j'ai des plus gros tournages, je loue des ingénieux ou des plus gros objets. Je n'ai pas encore investi là-dedans. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien les zooms, j'aime bien aller chercher des choses qui écrasent le fond, tu vois, donc plutôt des choses.
Ouais, t'es sur de la longue focale.
Ouais, plutôt de la longue. Et du coup, ça se ressent encore plus la vitesse, tu vois.
Okay.
Quand t'es à 50 km/h en off-speed frame rate, à 50 km/h avec une longue focale, c'est vrai que du coup tu ressens beaucoup plus la vitesse, le décor écrasé, tu vas aller chercher un détail de feu, des choses comme ça, des un quart. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup aussi avec la personne qui pilote. Et si c'est quelqu'un du monde de l'audiovisuel, c'est encore mieux, parce que du coup quand tu vas dire ok, on fait un quart face enroulé profil, moi je dis ça. Tu vois, le mec, il sait, ok, je sais où à peu près où il va se placer, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Et en caméra car, ouais, ça va très vite, tu vois. Donc, c'est dangereux, c'est stressant. T'as l'équipe qui te parle, t'as le pointeur qui dit, attends, j'ai perdu la commande de points. Ok, je l'ai récupéré. En attendant ton opérateur gimbal, attends, j'ai une latence, tu vois, j'ai un problème. Donc, t'es en train de parler chinois avec tes équipes. Moi, c'est pour ça aussi que je conduis.
C'est la question que j'allais te poser. Ouais. Ouais. C'est que tu me disais, c'est quasiment que moi qui conduis à 90% du temps sur les projets.
Ouais.
C'est pour ça, c'est parce que ça demande une connaissance totale de tous les postes et d'échanger avec tout le monde en même temps.
Ouais, exactement. J'ai déjà été plusieurs fois opérateur et j'ai laissé le volant. J'ai vu ce que ça faisait. Du coup, maintenant, je prends le volant. Et tu sais que même en tant que pilote, tu participes de fou à la création des plans.
Complètement.
Parce
ouais.
que si je suis sur une trois voies, la voiture de jeu est derrière moi sur la voie de gauche, moi je suis sur la voie de droite et moi d'un coup je bascule sur la voie de gauche et la voiture de jeu bascule sur la voie de droite pour aller créer une sorte de Z, un zigzag, tu vois, c'est ça qui donne énormément de dynamique, les fameux enroulés, tu pars de un quart gauche à un quart droite, tu finis un quart droite, bah du coup tu vois, tu crées aussi les plans. Donc moi j'ai mon petit moniteur que je regarde juste de temps en temps et après tu vois, c'est un dialogue avec tes équipes, c'est pour ça aussi que j'aime bien reprendre un peu les mêmes personnes. J'ai un petit catalogue de techniciens spécialistes là-dessus. Ouais, voilà, avec qui on travaille, on s'entend bien. Basé à Genève et Paris essentiellement. Et du coup, voilà un peu comment on fonctionne. Et oui, c'est aussi pour ça que je conduis la voiture.
Ok, super intéressant. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ça, mais je te repose quand même la question. Est-ce que tu as des conseils à donner à une personne qui voudrait se lancer là-dedans, qui voudrait faire ses premiers plans de caméra à car, qui voudrait suivre une voiture, elle t'a donné déjà pas mal de tips, à vrai dire. Donc,
ouais.
Je sais pas s'il en reste encore deux, trois, mais.
Le tips qu'il faut toujours garder en tête, c'est être logique, en fait. Tu vois, si quand tu montes ton système, si t'as un doute que t'as une ventouse, que t'es pas sûr qu'elle soit bien mise ou des choses comme ça, le fais pas, tu vois. Juste, et suis juste la logique. Si tu déportes ta caméra sur le côté droit de ta voiture, du coup, elle va prendre le vent à mort, tu vois. Donc, elle peut se prendre des graviers. Elle peut aussi, tu vois, ta ventouse, elle peut se décoller plus facilement. Tu vois,
Ouais, je pense que c'est la crainte de tous les.
Si c'est bombé, tu vois, c'est vraiment que de la logique, quoi. Tu vois.
Ça, c'est les craintes des premières fois, je pense, quand tu mets pour la première fois un système de ventouse sur une voiture avec ta caméra qui t'a coûté toutes tes économies.
Tu testes aussi beaucoup. Faut tester, hein. Franchement, je teste énormément chez moi. Dans mon garage, dans ma rue et tout. Vraiment, j'ai fait plein de tests avant d'aller sur le tournage. Parce que le jour J, dis-toi aussi que moi maintenant la caméra car, je peux la monter entre guillemets les yeux fermés parce que je la connais par cœur et je l'ai optimisée au fur et à mesure du temps. C'est quand même ma troisième voiture en 4 ans, mais j'ai testé vraiment énormément. J'ai passé énormément d'heures chez moi à monter, démonter le truc. Tu vois, mes mains peuvent j'ai des cloques et tout. C'est pas pour m'étonner, quoi, tu vois.
Et alors, est-ce que tu as une référence, que ce soit film, livre, podcast, épisode YouTube, n'importe quoi que tu recommanderais, que ce soit en ce moment ou que tu avais consulté avant, que tu aimes beaucoup pour devenir, par exemple, filmmaker ou pour...
Ah, Bah, il y a le livre de, du copain Ludoc.
De Ludoc.
Ouais, tu vois,
qui est posé sur le bureau là-bas, d'ailleurs, le guide du filmmaker, s'il me semble, un truc comme ça.
Le manuel de survie du vidéaste.
Ah, voilà, c'est ça, ouais, exactement.
Ouais, voilà, ça, c'est très cool, tu vois, 30 euros pour vraiment débuter la base de la base. Après, tu as le manuel de la photo imagée, là, c'est une couverture orange. Ouais, ça s'appelle le manuel de la photo. Qui est assez technique, en fait, qui montre les principes de l'exposition, du diaph, de tout ça, tu vois, toute la technique d'un boîtier, en fait. Ça, c'est un bon bouquin pour débuter. Je pense beaucoup au YouTube, tu vois. Genre, en vrai, je suis abonné à Villebrequin, je suis abonné à RVB, à Ludoc. Mais du coup, ouais, je regarde beaucoup ouais, YouTube. Bien sûr, McFly Carlito, petit dédicace à Florence Abattier que vous avez...
Qui était passé sur le podcast ouais, il y a voilà, quelques mois, ouais, tout
et
à fait.
D'ailleurs, je te parlais de ma team que j'emploie super souvent. Petit big up à Nathan Henton, qui est un peu mon chef op à titrer depuis 10 ans. Quoi, tu vois, ça, on a fait nos études ensemble. Et dès que je réalise, en fait, je parlais de l'Alpine Radical, par exemple. C'est lui qui a chef op dessus. Et du coup, il vient avec son ou ses électros selon les budgets. Du coup, je travaille super souvent avec Nathan Henton, qui est du coup... le chef-op des gros projets de McFly Carlito, genre les clips qu'ils font, ça a besoin d'Astera, de néon, de trucs. Du coup, c'est lui, et du coup, on travaille souvent ensemble. Mais tu vois,
tout est connecté.
Tout est connecté, quoi.
Ben voilà, ah, la boucle est bouclée. Ouais. Et ben, super, merci beaucoup, Thomas, de nous avoir raconté tout ça, d'avoir partagé tes tips, d'avoir peut-être même créé des nouvelles vocations et du coup, de nouveaux concurrents pour les prochaines
ouais,
années
là,
à venir.
Des nouveaux copains, ouais, c'est cool. Merci.
On peut te retrouver sur Instagram et surtout sur YouTube aussi, TL Films au pluriel, où tu commences à faire pas mal de contenu et justement ouais. où tu expliques un petit peu plus en détail et on peut voir ta config, etc. Donc, je vous recommande à tous d'aller voir ça. Et sur ton site tlfilms.fr où on peut voir un peu tes créas et les clients pour qui t'as bossé. Ou même te contacter pour faire appel à tes services. Merci beaucoup Thomas, ciao.
Merci pour l'accueil.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À présent, pour mettre en pratique ce que vous venez d'entendre, rendez-vous sur lightshare.com afin de louer tout le matériel dont vous allez avoir besoin. Et évidemment, si cet épisode vous a plu, laissez-nous un avis sur Apple Podcasts ou Spotify et partagez l'épisode à vos amis, collègues, famille, bref à toute personne intéressée par le monde de l'audiovisuel. Encore une fois, merci pour votre soutien et à très bientôt.